La philosophie peut-elle guérir? Serge Margel au micro de Wolfgang Wackernagel.
Serge Margel, dans cette émission que nous avons élaborée ensemble, nous allons aborder un thème que je pourrais qualifier de transdisciplinaire, puisqu'il cherche à montrer les origines communes, si j'ose dire, de la philosophie et de la médecine dans ce passé lointain. Et dans cette première partie de cette émission, c'est vous qui allez nous parler du médecin, du dieu médecin Asclépios.
Avant de décrire ce mythe et cette légende qu'on retrouve chez Pindare, chez Platon, je voudrais tout simplement et tout d'abord situer un peu le problème, parce que c'est pas du tout évident, même si aujourd'hui on parle beaucoup et on le comprend tout de suite, de la médecine de l'âme avec la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse. C'est pas du tout évident de comprendre ce que peut bien signifier une maladie de l'âme. En fait, la médecine de l'âme est une métaphore de la médecine du corps. Si on en est venu à un moment donné dans l'histoire à penser la possibilité de guérir l'âme, c'était tout d'abord parce que, et bien entendu, on a commencé à guérir le corps et on a vu que l'âme elle-même avait des maladies, entre guillemets, qui lui étaient propres. Les maladies de l'âme concernent des spécificités de l'âme. Comme le corps est infecté par des cancers, des problèmes qui lui sont propres, l'âme aussi aura des problèmes qui lui sont propres. Et toute la difficulté, c'est de pouvoir définir quels sont ces symptômes propres à l'âme. Évidemment, si on parle aujourd'hui d'un cancer du cerveau, il s'agit encore du corps. Le cerveau en tant que matière, en tant que substance sur laquelle le médecin du corps peut agir en faisant ce qu'il doit faire pour traiter avec des médicaments, des antibiotiques, etc., le cerveau malade. Mais la maladie de l'âme ne concerne rien de, disons, d'organique, rien de somatique, mais elle concerne quelque chose qu'on appelle depuis très longtemps une faute, un péché. Quelque chose donc qui relève de la morale, en fait. Et c'est pourquoi la philosophie, très tôt, déjà avec Platon, s'est attribuée cette valeur thérapeutique, en quelque sorte, curative. C'est elle, la philosophie, qui va pouvoir, comme le médecin du corps, c'est-à-dire comme le médecin, guérir l'âme. La philosophie s'est attribuée cette valeur thérapeutique dans la mesure où elle s'est décrétée à elle-même le pouvoir de connaître d'une part l'âme, comme le médecin du corps va, avant de guérir le corps, connaître le corps, et ensuite, par cette connaissance, il va pouvoir guérir l'âme. C'est la connaissance de l'âme philosophique, hein. La philosophie est censée être cette discipline qui a pour objet la connaissance de l'âme, entre autres choses, mais en particulier, et par cette connaissance, elle va pouvoir guérir l'âme, dans la mesure où l'âme souffre de ne pas être conforme à sa nature, d'être malheureuse, d'être en faute, etc. Donc la philosophie, c'est elle-même qui va jouer ce rôle de médecin de l'âme.
Serge Margel, philosophie, médecine, le lien entre les deux, est-ce qu'au fond, Asclépios était un philosophe?
On peut dire que c'était un philosophe, et c'était pas un philosophe. Enfin, c'est plutôt que la philosophie, avec Platon, s'est un peu approprié la figure d'Asclépios. Il y a un hymne homérique à Asclépios. Asclépios, c'est le guérisseur des maladies. Fils d'Apollon, que je chante pour commencer. Dans la plaine du Dossion, la divine Coronis, fille du roi Phlegios, l'enfanta pour le grand bonheur des hommes, ce dieu qui apaise magiquement les pénibles souffrances. Ainsi donc, salut à toi, sauveur, ce chant est ma prière. Asclépios, dans ce bref hymne homérique, est non seulement un dieu qui va sauver les maladies, qui va les guérir, mais c'est aussi un dieu qui va ressusciter les morts. Et on retrouve une légende qui date de l'époque de Pindare, c'est-à-dire avant même Platon, où, et ce texte, le texte que je viens de citer en parle, où la naissance d'Asclépios est très bien décrite, d'ailleurs elle ressemble fortement à la naissance de Dionysos. Asclépios, c'est donc le fils d'Apollon et de Coronis, hein, la fille d'un roi de Thessalie, et qu'Oronis, lorsqu'elle était enceinte d'Asclépios, est tombée amoureuse d'un mortel. Apollon, jaloux, a jeté Coronis dans le feu, et il a sorti encore vivant le petit dieu, Asclépios, et l'a livré au monde à moitié vivant, à moitié mort, et c'est le chirurgien sacré Chiron, qui l'a élevé, et qui lui a en fait appris la médecine déjà. Chiron a très vite vu qu'Asclépios était habile en médecine. Et il a vu aussi qu'il avait en lui deux systèmes de vaisseaux sanguins. Un vaisseau sanguin qui apporte un sang contaminé au patient, au malade, c'est-à-dire qui peut lui donner la mort, et un vaisseau sanguin bienfaiteur qui peut sauver le patient de la mort. Et c'est pour ça que Asclépios est non seulement un médecin sacré qui peut guérir les maladies, mais il est aussi un médecin qui peut sauver un vivant de la mort, c'est-à-dire qui peut lui redonner la vie. Et c'est encore et aussi pour ça que le christianisme a fait du Christ une nouvelle figure d'Asclépios. On y reviendra, en particulier demain. Et le Christ s'est appelé le Christ médecin aussi. Hein? Et c'est pour ça, c'est parce qu'Asclépios n'est pas seulement un médecin, mais il est aussi un dieu capable de ressusciter les morts.
Serge Margel, dans cette présentation mythologique d'Asclépios, vous avez parlé du centaure Chiron qui a donné la chirurgie. Et en fait, Asclépios avait aussi une fille qui s'appelait Hygie, qui a donné l'hygiène. Donc on voit, c'est assez surprenant combien la terminologie médicale actuelle est enracinée encore dans cette mythologie qui tourne autour d'Asclépios. Alors je crois que la plupart d'entre nous savent plus ou moins comment la médecine guérit aujourd'hui. Comment est-ce que Asclépios guérissait?
Il y avait ce qu'on appelle encore aujourd'hui d'ailleurs l'incubation. L'incubation, c'était, et c'est encore maintenant dans un terme médical qui décrit simplement le temps, la durée entre la contagion de la maladie et les premiers symptômes. C'est comme ça qu'on peut définir le temps de l'incubation dans une maladie.
Alors incubation, c'est qu'il a une sorte de pressentiment des infections bactériennes. Connaissait-il les bactéries?
Sans doute. Non, il n'avait sans doute pas les moyens techniques et scientifiques de connaître l'existence des bactéries, mais des troubles. C'était des troubles qui se manifestaient au niveau du corps, justement, et qui étaient en quelque sorte les prémices de symptômes sur lesquels il fallait agir. Et c'est ce qui est très important, c'est que ce temps d'incubation, qui durait un certain nombre de jours, était en fait traité par le médecin, mais à partir d'une cérémonie sacrée qui devait se dérouler dans la partie du temple ou le temple lui-même qu'on nommait l'Asclépion. Et dans ce temple, durant cette période, le patient devait offrir certains sacrifices aux dieux. Il devait aussi suivre des séances de massage, de jeûne, enfin il y avait tout un rituel qui se terminait souvent, dans la plupart des cas, par le sacrifice d'un animal. Le patient devait dormir sur la peau de l'animal sacrifié. Donc il y avait vraiment toute une préparation qui le mettait dans un état, dans une disposition d'esprit très particulière. Et durant la première nuit qui suit le sacrifice, le patient était censé recevoir durant la nuit, c'est-à-dire en rêve, la venue du dieu Asclépios. Et le dieu Asclépios, qui s'adressait au travers du rêve, allait décrire la maladie et lui prescrire des médicaments, entre guillemets, donc au patient qui rêvait. Et le lendemain matin, le patient allait raconter son rêve au médecin, et le médecin allait interpréter ce rêve pour en fait, guérir la maladie. Donc il y a là quelque chose qu'on peut retrouver encore aujourd'hui dans des cures thérapeutiques très proches de la psychanalyse, où le rêve a une fonction de révélation de la maladie. Et c'est ce qu'on a dit dans des études que j'ai pu lire, je ne vais pas citer parce que c'est pas très important, mais que cette période dite d'incubation où le rêve révèle la maladie, au médecin, parce qu'il y a l'interprétation du médecin qui est très importante ici. Hein. Il n'y a pas que le patient qui rêve, qui reçoit la venue du Dieu, mais c'est aussi l'interprétation du médecin qui doit comprendre le rêve du patient pour découvrir vraiment la maladie elle-même et lui prescrire les médicaments appropriés. Donc, il y a là l'origine de ce qu'on appelle encore aujourd'hui le triangle hippocratique, d'ailleurs on y reviendra, entre le malade, le médecin et la maladie. Et finalement, la maladie elle-même, c'est le fruit d'une interprétation qui se passe entre le rêve où se révèle la présence du Dieu qui décrit les symptômes et les médicaments qui peuvent traiter la douleur, la blessure, la maladie.
Donc on peut presque dire que Freud est un nouvel Asclépios ou qui reprend ce double aspect. On a cet aspect intermédiaire d'Asclépios. Il y a d'une part des thérapies qui font tout à fait sens. Aujourd'hui, il y a cet aspect où il s'agit de plonger, de sentir si ça se trouve dans son propre corps. Quelle est l'origine de la maladie? Et ce qui est aussi frappant, c'est au fond ce médecin, ces médecins qui sont des Asclépiades, qu'on disait, si je ne me trompe, être des enfants d'Asclépios. Les Asclépiades sont tous des enfants, soit par descendance, paraît-il d'ailleurs, ou par adoption, des fils adoptifs, ceci en motif chrétien, hein, des enfants du dieu Asclépios. Et donc ils ont un rôle qui est à la fois celui d'être médecin et aussi un peu un rôle de prêtre qui interprète. On retrouve presque une nouvelle version du culte apollinien à Delphes. On sait aussi que la Pythie donnait des messages, les gens les écoutaient, et il y avait des prêtres pour interpréter ce message. L'interprétation étant évidemment l'herméneutique, l'art d'interpréter ce que le message du Dieu pour le traduire ici dans une action très concrète, à savoir une thérapie.
Ben d'ailleurs, il y a un livre fameux d'Artémidore d'Éphèse sur la clé des songes, et Freud, quand il ouvre sa grande introduction à la science des rêves, parle d'Artémidore d'Éphèse et le décrit comme son précurseur en quelque sorte. Hein. Ce qu'a fait Artémidore, c'est d'interpréter des rêves en donnant, comme il dit, des clés, c'est-à-dire des moyens de comprendre les messages et les signes, les symboles qui se retrouvent dans les rêves et qui eux-mêmes parlent de quelque chose d'autre, comme une maladie ou une prophétie ou une menace, etc. Et Freud, lui, ce qu'il va faire, évidemment, c'est pas simplement d'élaborer une description, mais d'essayer de retrouver dans les rêves ce que la légende d'Asclépios dit très bien, c'est-à-dire des maladies, des troubles, des angoisses qui empêchent l'individu de vivre. Ce qui est très très important, à la fois dans la légende décrite et chez Freud, c'est que c'est quelque chose de l'intériorité psychique du patient qui va pouvoir révéler au médecin, au psychiatre, au psychanalyste, la réalité de cette maladie. Donc, c'est pas simplement comme un médecin du corps qui va venir examiner les lésions par un microscope ou par des analyses sophistiquées, mais ça passe par une révélation intérieure, en quelque sorte.
On a vu cette approche de la guérison d'Asclépios qu'on pourrait qualifier d'onirique, puisque c'est dans le rêve que se perçoit la guérison. Là, encore une fois, on peut voir un lien entre cette approche-là et ce qui se découvre de plus en plus de nouveau, se redécouvre aujourd'hui, d'une approche de la médecine qu'on qualifie de psychosomatique.
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le transfert thérapeutique, en fait. Et ce transfert thérapeutique est déterminant pour une guérison possible d'une maladie de l'âme. S'il n'y a pas de transfert, la guérison est à venir, est possible, mais elle n'aura certainement pas lieu. Et ce qu'on peut découvrir déjà dans à la fois cette légende, mais en même temps cette pratique médicale aussi, qui se passe entre le médecin et son patient et le malade, c'est la découverte de la maladie. La découverte de la maladie relève de ce transfert. Et ce transfert, en quoi consiste-t-il? C'est à la fois très complexe et très simple. C'est très complexe parce que il y a beaucoup d'éléments qui interviennent, mais c'est très simple parce qu'il dépend d'une confiance. C'est une confiance que le patient attribue spontanément, mécaniquement au médecin. Et c'est parce que cette confiance a lieu, et d'ailleurs je vais y revenir avec Platon, qui en parle fortement, c'est parce que cette confiance du patient est pour lui nécessaire envers le médecin qu'il peut se confier justement au médecin, révéler son âme, son rêve, lui exposer ses malheurs, ses troubles, que le médecin peut intervenir. Et ce qui s'est passé de très important autour de la légende d'Asclépios, en plus de cette description du temps d'incubation, c'est la question de l'argent. Et ce n'est pas un hasard si encore aujourd'hui, la question de l'argent, en psychanalyse en l'occurrence, est déterminante pour la cure, pour la thérapie. Alors il y a un passage célèbre du poète Pindare, donc qui a précédé aussi Platon dans la pensée grecque archaïque, où la question de l'argent est liée avec le destin du médecin Asclépios. Et je cite un passage, c'est le moment où Asclépios est tué par Zeus parce qu'Asclépios a demandé de l'argent pour son service de médecin. Tous ceux qui venaient à lui, à Asclépios, porteurs d'ulcères nés en leur chair, blessés en quelque endroit par l'airain luisant ou par la pierre de jet, le corps ravagé par l'ardeur de l'été ou le froid de l'hiver, il les délivrait chacun de son mal, tantôt en les guérissant par de doux charmes, tantôt en leur donnant des potions bienfaisantes, tantôt en appliquant à leurs membres toutes sortes de remèdes, tantôt enfin en les remettant droit par des incisions. Mais la science elle-même se laisse captiver par le gain, c'est-à-dire par l'argent. L'or qui reluit en la main le tenta lui aussi, Asclépios, pour un salaire magnifique d'arracher à la mort un homme dont elle avait déjà fait sa proie. Zeus, de sa main, lança contre tous deux son trait et leur enleva le souffle de la poitrine. La foudre ardente descendit leur apporter leur destin. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce texte? C'est très simple, c'est que Asclépios, selon Pindare, en est venu à un moment donné à revendiquer un salaire, tout simplement. Il a bien compris, c'est très naïf ce que je dis, mais il a bien compris, Asclépios, l'importance qu'il avait de guérir des maladies, de sauver les morts, etc. Et il en est venu tout simplement à demander de l'argent. Et lorsqu'il commence à demander de l'argent, pourquoi Zeus le punit, hein? Zeus est quand même c'est le grand-père en fait d'Asclépios, hein? C'est le père d'Apollon, donc le grand-père d'Asclépios. Il punit Asclépios, il le tue, il tue d'ailleurs aussi le patient, ils sont tous les deux mis à mort, parce que quelque chose de fondamental pour la guérison va disparaître, c'est la confiance, justement. Lorsque le médecin, ça pose des problèmes très complexes encore aujourd'hui, hein, le problème de la confiance et de l'argent, comme on vient de le rappeler, le jour où le médecin travaille pour de l'argent, le patient va spontanément se méfier du médecin. Il va croire que le médecin est simplement en train, ou risque en tout cas, d'abuser de sa confiance, donc de profiter de son argent. Et le jour où, et Platon va y revenir, je vais citer un texte de Platon, le jour où le médecin n'est plus digne de confiance, le jour où le patient va croire par conséquent que le médecin agit non pas pour le guérir, mais pour recevoir de l'argent, le patient n'arrivera plus à se confier au médecin. Donc toute cette période d'incubation très importante, où le dieu va venir dans le rêve pour exposer et révéler la maladie, et le patient va révéler après coup le matin ou le jour suivant au médecin ce qui lui est arrivé, tout ceci va se brouiller et disparaître. Platon va, quand il va reprendre, lui, le mythe d'Asclépios, ce que Platon va revendiquer en quelque sorte, c'est justement de ne pas salarier les médecins. Ça c'est très très important pour Platon, c'est d'avoir des médecins qui travaillent comme un service public. Ils travaillent au nom de la communauté et pas pour s'enrichir. C'est si important, c'est justement, et ça je tiens beaucoup à le souligner, pour des questions de confiance. Il faut en quelque sorte choisir soit le salaire, soit la confiance. Et Platon insiste beaucoup, le médecin doit agir, et encore aujourd'hui, sur la capacité qu'a le patient à le croire spontanément. Et j'aimerais citer un texte assez bref de Platon où la question du crédit et de la confiance est mise en perspective. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans ce dialogue, Socrate répond au jeune Hippocrate. « Eh bien, comprends-tu maintenant à quel péril tu es sur le point d'exposer ton âme ? Avant de confier, je souligne là le mot « confier », la confiance, la confidence, avant de confier ton âme à quelqu'un, s'il devait en résulter pour lui un grand risque de bien et de mal, tu examinerais longuement le parti à prendre et tu demanderais conseil à tes amis, à tes proches, passant bien des jours à délibérer. Et quand il s'agit d'une chose plus précieuse à tes yeux que ton corps, de ton âme, dont dépend tout ton bonheur ou tout ton malheur, selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, dans ce cas, tu ne consulteras ni ton père, ni ton frère, ni aucun de nous qui sommes tes amis, pour savoir si, oui ou non, tu dois la confier à ce nouveau venu, à cet étranger. » Donc, on voit bien dans ce texte le danger que représente, pour Platon en tout cas, cette confiance aveugle que je peux donner au médecin, celui que je ne connais pas, l'étranger, hein, à qui j'ai plus confiance, en qui j'ai plus confiance que mes amis, que mes proches, que mes frères, que mes parents, parce qu'il est médecin, parce qu'il est, il a ce titre, médecin, psychiatre, etc. Je vais lui accorder toute ma confiance. Au-delà de la confiance que je peux avoir en mes proches, etc., qui eux ne sont pas médecins. Il y a même un autre passage, je ne vais pas citer, où Platon dit que si j'ai mal à mon œil, je suis prêt à demander au médecin qu'il me guérisse, au point où je vais accepter toutes sortes de traitements. Il pourra même faire couler du plomb dans mon œil s'il pense que ça peut le guérir. Et moi, parce que j'ai confiance en lui, je vais me laisser faire. Et c'est très important là de bien voir justement que cette confiance va déterminer la capacité de toute guérison possible. Et je crois que cette confiance, il y a le mot foi dedans, hein, il y a la fiance, enfin on pourrait dire d'une sorte de néologisme, il y a la foi, la fidélité, le crédit. Le Christ va agir exactement de la même manière. Il va jouer sur ce côté de fidélité, de croyance, de crédit, de confiance, mais on le verra demain, d'une manière toute différente. Mais il y a là déjà des liens, on pourrait presque dire que l'origine du christianisme pourrait se comprendre à partir d'une histoire de la médecine.
Serge Margel, je crois me souvenir qu'il y a un autre passage, justement, dans la République de Platon, où il est dit que le fait que Asclépios accepte de l'argent est la preuve qu'il n'est justement pas un dieu, mais un demi-dieu. Il est à la fois d'origine divine et tout à coup c'est sa nature humaine qui a pris le dessus et qui donc tout à coup met le doute sur la figure d'Asclépios.
C'est tout à fait juste. Platon reprend le mythe d'Asclépios, mais à la fois le critique. Ce qu'il veut faire, Platon, c'est convertir Asclépios à sa vérité, en fait. Le vrai Asclépios, c'est un Asclépios qui doit, comme à l'origine du mythe, travailler librement, sans argent, sans aucun intérêt. Et ce que va faire Platon, c'est en quelque sorte, il va réformer le mythe d'Asclépios.
Il essaye en quelque sorte de montrer qu'un dieu n'a pas de poche. Et donc tout ce problème, on sent là-dedans le reproche à l'égard des sophistes, n'est-ce pas?
Tout à fait, tout à fait. Il n'a pas de poche, mais en même temps, il a une fonction, il a une utilité, il a une tâche, un devoir. Et ce devoir, pour Platon, dans la République, on peut dire en deux mots, vraiment, la République, c'est quand même le texte, un grand texte de Platon, où Platon va essayer de décrire quels sont les fondements de la cité idéale. Et Asclépios joue un rôle déterminant dans ces fondements de la cité idéale, c'est celui du maintien de l'équilibre. Hein? Alors Asclépios, pour Platon, est un politique. Asclépios n'est plus vraiment un médecin au sens où Hippocrate ou toute la tradition des médecins qui ont précédé Platon, étaient des contemporains de Platon aussi, étaient des médecins comme des spécialistes, enfin des professionnels. Asclépios est médecin dans la mesure où sa tâche est d'abord et avant tout politique, avant qu'elle soit, disons, curative ou elle est politique. C'est-à-dire qu'elle est censée, à la fois pour le corps et pour l'âme du citoyen, de rétablir l'équilibre. De rétablir l'équilibre du corps, c'est-à-dire de lui redonner la santé, de lui redonner la force. Et il va d'ailleurs attribuer le pouvoir à Asclépios de tuer ceux qui, dans cette cité, n'ont plus les moyens de remplir leurs tâches. C'est assez terrible. Enfin, là encore, il y a des textes qu'on pourrait citer, où il dit que si quelqu'un n'est plus capable, à cause de ses défaillances, de travailler comme il le doit, il vaut mieux qu'il meure. Et ça, c'est la tâche d'Asclépios, de le mettre à mort. Platon, il en fait une critique, il parlait d'un de ses amis qui passait son temps à être soigné, à se plaindre sur ses maladies et à avoir une vie végétative, accompagnée de nombreux médicaments et de potions qui ne faisaient que le faire vivre à moitié. Là, il préfère être mis à mort, le mettre à mort. Lui, il veut des gens bien portants. Hein, pour avoir des citoyens capables de maintenir l'équilibre de la cité, et puis en même temps l'équilibre de l'âme. Et là, il faudra revenir longuement sur cette question de l'équilibre de l'âme, parce qu'elle concerne les maladies de l'âme et surtout la guérison de l'âme.
C'est en fait un peu contraire au serment d'Hippocrate, où il s'agit au fond, de par tous les moyens, de maintenir en vie ce qui est en vie, n'est-ce pas?
C'est tout à fait contraire à la vocation hippocratique. Pour Platon, il s'agit de maintenir en vie ce qui peut servir à la cité. Et ce qui ne peut pas servir à la cité, c'est-à-dire à l'idéalité de la cité, il vaut mieux qu'elle meure. Ainsi, tu établiras dans la cité des médecins et des juges, tels que nous les avons décrits, pour soigner les citoyens qui sont bien constitués de corps et d'âme. Quant aux autres, on laissera mourir ceux qui ont le corps malsain, et ceux qui ont l'âme perverse par nature et incorrigible, on les mettra à mort.
Au micro de Wolfgang Lacarnel, c'était Serge Margel. Nous les retrouverons tous deux demain. Deuxième partie.